Radio Libertaire 89.4.
Mercredi, 16h. Radio Libertaire, le Ferry Club.
La Radio Libertaire.
Je suis né près de la mer. Je me suis endormi tout enfant sous la pluie. Ma mère mettait du vernis à ongles. Je voyais des bateaux amarrés, jamais partis. On n'a que les odeurs qui s'inventent à nous par hasard. Naître près de la mer, cela veut dire se sentir elle, jusque dans les moindres détours de la pensée, du verbe, du muscle. On pense la mer parce qu'elle est verte, bleue, grise, incolore. Et qu'elle a des odeurs vertes, bleues, grises et incolores. On la parle aussi. Quand elle est en colère, on crie comme elle. Lorsqu'elle chante, on s'enchante avec elle. Enfin, on est le mouvement même de la mer, parce que nos nerfs, ondoyant comme elle, s'identifient en permanence à son rythme d'hiver, à ses sautes d'humeur, à ses calmes effrayants, à sa mathématique de vierge cavaleuse.
Sors souvent la mer, c'est pas bon pour ta voix. Tu devrais mettre un poule, t'as bien assez de moutons. Et puis prendre ton carrosse, et puis rentrer chez toi. 300 000 chevaux là-bas disent ton nom. Tu sors souvent la mer, fais gaffe aux inconnus, avec leurs pipes en l'air qui canardent le ciel. Et leurs sarraux de fer, et leurs toiles perdues. Le vent n'a rien à faire avec ces criminels. Ça s'appelle le bateau, et ça marche au mazout. Dès le petit matin, ça s'en met plein le trou. Ça sait pas marcher droit, ça flirte avec radar. Un espion, un poulet. Un voyeur, un bavard. Tu sors souvent la mer, à ton âge il faut pas. Tu mets ta vague à l'air comme une fille dans les bois. Et ça donne des idées à ceux qui n'en ont pas. Ça se met une casquette et ça se fout dans tes bras. Tu sors souvent la mer comme les filles de la rue qui montent sans raison avec un inconnu parce que c'est l'usage et qu'elles ont 16 ans et qu'on peut faire naufrage sans avoir toutes ses dents. Ça s'appelle l'amour et ça marche au chiquet. Dès la tombée du jour, ça boucle ses paquets. Un voyage au long cours dans la rue et au mur, c'est 5 à 6 minutes. Et encore, c'est passé. Tu sors souvent la mer, tu te fais les yeux bleus, t'y mets du vert parfois pour voir des amoureux qui regardent le creux. Que te fait la marée qui des fois s'y confondent en croyant se marrer. Tu sors souvent à la mer, mais tu n'as pas d'époux. Dans ta maison de dune, tu nous lèches la joue. Et tu repars là-bas comme un rêve insensé qui toujours recommence et toujours se défait.
ça s'appelle la vie. Ça marche au baratin, ça se fout des chapeaux, des bijoux, des chagrins. Ça sort au syndicat, au ciné. Crois-moi, ça sort et puis ça rentre. Faire des mots à l'état. Tu sors souvent à la mer. Emmène-moi avec toi.
La plus grande partie de votre livre est consacrée à l'emprisonnement de votre personnage dans un collège religieux. Et il y a là des pages tout à fait sensibles et pathétiques. Il semble que vous régliez là, que Benoît Misère règle là son compte à un certain nombre de gens qui l'ont étouffé, qui ont failli l'abîmer.
Oui, au fond, vous dites une chose très juste, qui ont failli m'abîmer. Si j'en suis sorti, c'est parce que, je sais pas, vous savez, j'en suis sorti, je ne sais pas pourquoi. Et vous parlez de règlement de compte aussi, c'est un règlement de compte. Bien sûr, quand j'avais l'âge, quand j'étais en prison, j'étais docile, parce que c'était un moment où les jeunes étaient dociles. L'autorité paternelle, ça existait. Souvent, d'ailleurs, mal à propos, je dois dire. On ne partait pas des collèges. On ne partait pas des prisons. Maintenant, je crois, oui. Et je ne sais pas, tout ça, ça a macéré dans moi, quoi. Peut-être que le fait que je sois un révolté permanent, ça vient peut-être de là.
Madame la misère, écoutez le vacarme que font vos gens, le dos voûté, la langue bas. Quand ils sont assoiffés, ils se saoulent de larmes. Quand ils ne pleurent pas, ils crèvent sous le charme de la nature et des gravats. Ce sont des enragés au ventre translucide qui vont sans foi ni loi, comme on le dit parfois. Régler son compte à Monseigneur éphéméride qui a pris leur jeunesse et l'a mise en séride. Quand il ne leur restait que ça. Madame la misère, écoutez le tumulte qui monte des bas-fonds comme un dernier convoi. Traînant des mots d'amour, avalant des insultes et tenant par la main leurs colères adultes afin de ne les perdre pas. Ce sont des enragés qui dérangent l'histoire et qui mettent du sang sur les chiffres parfois. Comme si l'on devait toucher du doigt pour croire qu'un peuple heureux, rôtant tout seul dans sa mangeoire, vaut bien une tête de roi. Madame la misère, écoutez le silence qui entoure le lit des faits des magistrats. Le code de la peur se rime avec potence. Il suffit de trouver quelques pendus d'avance. Et mon Dieu, ça ne manque pas.
J'appris à mesurer le temps à l'époque où les enfants viennent d'apprendre à se moucher tout seuls. J'appris à mesurer le temps en musique. Les heures étaient colorées. À l'aube, un coucou orangé signalait l'inquiétude du ciel s'enveloppant peu à peu des prémices solaires. À 8 heures, en plein été, l'oranger tournait au rouge sang. donnant le point du ciel tomate. Polychromate coucou avec ses révérences courtoises et qui finissait le soir, vers les 10 heures, par virer au parme, douce violette mélodieuse qui m'accompagnait longtemps au fond du noir de la nuit. Ce coucou gît aujourd'hui dans un coin de cuisine chez ma mère, et quand j'y vais manger la soupe au basilic, dans les soirs chauds, tout un arc-en-ciel d'heures enfuies m'auréole le souvenir. Le régulateur ne sonnait pas. Il battait lourdement, seconde après seconde, l'iambe du temps des hommes. Une brève, une longue. Plus tard, étudiant la rythmique grecque, je m'apercevrai que la vie n'est qu'une suite d'iambes et de trochées, compliquées ça et là de dactyles et d'anapestes. Tout est rythme. Tout serait rythme, ainsi me parlait le régulateur de Percani, vidant ses poumons de ressorts arrimés au gros poids de cuivre qui tirait vers le bas, toujours, les secondes de mon calendrier. Régulateur grec, régulateur poétique où je lisais déjà des vers informulés, des phonèmes d'avant le phonème, des cris d'avant le cri, tic-tac monstrueux qui me précipitaient vers ma poussière. Dans les temps de guerre, alentour des nids de fer, certaines mitrailleuses sont dactyles, tra-ta-ta, et s'arrêtent aussitôt dans le silence de l'été, trouées d'iambes, cigales et de troches et grenouilles. Quelquefois, dans le même été, la mitrailleuse est anapeste, ta-ta-tra. La guerre s'écrit aussi en cellules rythmiques. La guerre est poétique à l'oreille. Elle frappe une musique de mort. Les régulateurs aussi.
Je connais une grue sur le vieux port, avec des dents longues comme la faim, et qui dégrafe tous les marins, qu'ont l'âme chagrine et le cœur d'or. C'est à Marseille que je vais la voir, quand le soleil se fout en tweed, et que le Mistral joue les caïdes. C'est à Marseille qu'elle traîne le soir. Elle a des jupes embarquées, tous les chalands qui traînent la nuit, et des froufrous qui font tant de bruit, qu'on les entend au bout du quai. Il suffit d'y mettre un peu de soie, c'est une putain qu'aime que la braise, et moi je l'appelle la Marseillaise, c'est bien le moins que je lui dois. Arrête un peu que je vois si tu fais le poids. Et si j'en aurais pour mon fric. Arrête un peu que je vois si les étoiles couchent avec toi. Et tu me diras combien je te dois. Je connais une grue dans mon pays, avec les dents longues comme le bras, qui dégrafait tous les soldats qu'avaient la mort dans leur fusil. C'est à Verdun qu'on peut la voir, quand les souvenirs se foutent en prise, et que le vent d'Est pose sa valise, et que les médailles font le trottoir. Elle a une voix embarquée, tous les traînes putains qu'elle rencontre, et il paraît qu'au bout du compte, ça en fait un drôle de paquet. Il suffit d'y mettre un peu de soi, au fond c'est qu'une chanson française, mais quand on l'appelle la Marseillaise, ça fait bizarre dans ces coins-là. Arrête un peu que je vois, si t'as de la voix. Si j'en aurais mes galons, arrête un peu que je vois, et puis que j'abreuve tous vos sillons, et je vous dirai combien ça fait. Je connais une grue qui a pas de principe, les dents longues comme un jour sans pain, qui dégrafait tous les gamins, fumant leur vie dans leur casse-pipe. C'est dans les champs qu'elle traîne son cul, où il y a des croix comme des oiseaux, des croix blanches plantées pour la peau des autres bien entendu. Celle-là on peut jamais la voir, à moins d'y voir les yeux fermés, et le périscope dans les trous de nez, bien allongé sous le boulevard. Leur filer quatre bouts de bois, et de faire leur lit dans un peu de glaise, et de leur chanter la Marseillaise, et de leur faire une belle jambe de bois. Arrête un peu tes cuivres et tes tambours,
et ramène-moi l'accordéon. Arrête un peu tes cuivres que je puisse finir ma chanson. Le temps que je baise ma Marseillaise.
Mon père, Pierre Misère, traînait son nom avec une infinie précaution. On eût dit qu'il charriait des tonnes de nitroglycérine le long de son arbre généalogique. Quand on s'appelle Misère, on en a pour toute sa vie. Cette terreur patronymique le tenait souvent prostré dans son fauteuil, attendant l'apocalypse. Il allumait sa pipe, se calait harmonieusement, les jambes croisées, selon un dandysme d'après le repas et d'avant le café dont il ne s'est jamais départi, la pantoufle béante, les pantoufles faisaient long feu à la maison, un crayon patiemment affûté, un papier complice, c'était l'heure de l'anagramme. Il savait par un soubirbe de contentieux que dans certains cas déterminés, l'on peut demander au Conseil d'État, et selon une procédure longue et coûteuse, de changer son patronyme lorsqu'il risque de prêter à confusion. Ce Cumon du conseil d'administration ne s'appelait-il pas Mon Cul en réalité? Misère, disait-il, c'est beaucoup plus lourd à porter que Mon Cul. Mon Cul, ça fait rire. Misère, pas. Comment veux-tu que je demande une augmentation avec un nom pareil? Dès qu'on me voit chez les patrons, on m'ignore, on m'étouffe, on m'efface. Mon nom porte malheur comme les hiboux. J'ai des hiboux plein mon identité. Je vais faire le nécessaire. Il avait fini par se fabriquer 6 cubes en bois, marqués aux lettres de son nom. C'était son jeu de patience. Il les palpait amoureusement, l'un après l'autre, laissant quelquefois au hasard la responsabilité du protocole phonétique, pesant d'autres fois de toute son autorité sur l'aventure alphabétique. Mérésie. Et cet homophone de l'action de grâce lui revenait comme un boomerang. « Merci de m'appeler Misère. Quelle dérision !»« Sirem. Tiens, c'est assez joli. Il y reviendrait souvent. » Il épuisait toutes les possibilités avec un acharnement tranquille qui tenait beaucoup plus du cruciverbisme que de la procédure administrative. Ce nom de 6 lettres, avec ses 3 voyelles dont le doublé, n'était pas tellement doué pour l'anagramme, mon père en convenait, et cela le rendait malheureux. Isérem, Imérès, Érésim, Érisem, ces consonances orientales choquaient son âme latine. Il se trouvait devant ses cubes comme la mouche devant la vitre. Il n'en sortirait jamais, et pourtant la lumière venait bien du dehors, elle était là, toute proche, on la touchait presque. Le bonheur des malheureux se trouve toujours derrière la vitre. « C'est Rémi, » lui dit un jour ma mère. C'est trop italien. Ça fait même un peu juif, objecta-t-il. Mon père n'était pas raciste, mais il disait volontiers « chacun chez soi ». Le racisme chez les pauvres gens étant inconscient et ne conduisant jamais au lynchage, mais à une sorte de panspilatisme bien français.
Mon frère était un assassin qui travaillait avec la lame. Chaque soir après le turbin, il faisait travailler sa femme. Ma sœur écrivait de beaux vers dans un journal hebdomadaire, et si son verbe était amer, c'est qu'on avait tué le libraire. C'est ce qu'on appelle en vérité une famille respectable, et l'assassin fut invité à mettre les pieds sous la table. Mon père avait un bar tabac que fréquentaient de drôles de têtes, ils vivaient tous dans l'aléa et papa plaçait leurs galettes. Ma sœur accordait au comptoir d'incommensurables chopines, bossant du matin jusqu'au soir, cherchant une rime à rapine.
C'est ce qu'on appelle en vérité une famille infatigable. Le travail, c'est la liberté, c'est une chose formidable.
Ma mère alors avait un tic, c'était le complexe d'Édipe. Ce n'est peut-être pas très chic, mais j'avais déjà des principes. Ma belle-sœur, je vous l'ai dit, avait un métier unanime. Elle aimait beaucoup son mari, trouvant cela plus légitime. C'est ce qu'on appelle en vérité une famille véritable, où l'instinct de propriété se révélait inéluctable. Tonton Tata, soudain fauché, fatigué de l'Europe flasque, devinrent tous deux attachés à une ambassade fantasque, fantasque. On chuchote sous le manteau que tous les soirs à Buenos Aires, tonton Tata dans leur huis clos, font dire mains et mains rosaires. C'est ce qu'on appelle en vérité une famille présentable, et si tonton fut arrêté, ben ça paraît à peine croyable. D'autres frangins, d'autres franginiennes avec qui faisait partout, faut avouer que pour la ligne, ma maman en avait pris un coup. Et malgré l'odeur d'ammoniaque, le père aimait à se repaître pour qu'on lui foute le prix cognac, il n'y avait plus tellement de kilomètres. C'est ce qu'on appelle en vérité une famille ou une fable, écrite sans moralité. Il me manque une rime en able, et si vous saviez ô combien cela est préférable.
Le collège où j'ai passé les trois quarts de mon enfance ne se trouve pas en Chine. La Chine, c'est bon pour plus tard, quand on est grand et qu'on mange son riz avec une fourchette et qu'on pense qu'il y en a des millions là-bas qui se lingurgitent à coups de baguette. La Chine, ça ne se trouve jamais que dans la géographie, minable, irritante, extraordinairement louche aussi, avec ses statistiques du découragement. Bref, mon collège ne se trouvait pas en Chine, mais à une vingtaine de bornes de chez ma maman. J'étais aussi loin de maman que si j'eusse été en Chine. Voilà pourquoi je n'aime ni les voyages, ni le riz, ni les baguettes, à part celle du tambour. Voilà aussi pourquoi, pendant mes 8 années de misère, perclus dans le cœur, fuyant de la moelle et spécialiste de l'aventure assise, j'ai craché sur la Chine, j'en ai fait lentement le tour aux confins de la page 187 du Galwedec. Je l'ai gommé, cette Chine, qui était aussi loin de moi que l'était ma maman. Je le savais par cœur, le Galwedec, par main, par jambe, par nausée. La géographie, on devrait l'interdire au moins de 16 ans, tout comme on leur interdit les films gangstéropodes. Après cet âge-là, on peut essayer, mais avec des travaux pratiques. Dans mon collège, qui se trouvait à 20 bornes de chez ma maman, j'étais malheureux comme un petit chinois.
J'avais 9 ans, un beau soir, je me suis trouvé dans un dortoir... 40 lits. Dortoir froid, parce que c'était un collège qu'on ne chauffait pas. Et cette espèce de solitude immédiate pour un enfant, ça, c'est quelque chose d'atroce. Je le vois maintenant, bien sûr. Et les parents ne savent pas ça. Bien sûr, les parents ne s'imaginent pas qu'ils mettent en prison leur fils. Ils croient que c'est très bien, que c'est merveilleux.
Ça les dresse.
Peut-être même, oui, mais enfin, dans le bon sens même. Je ne veux pas assassiner les parents, mais je veux surtout assassiner les individus qui sont dans ces prisons, c'est-à-dire, au fond, les gaffes, quoi. Hein? Ce sont de sales gens, vous savez, et singulièrement les religieux.
Robe noire de mon deuil de 8 années, avec par-dessous des jupons d'homme, un sexe d'homme, et une vraie maladie de la solitude. Des poches gigantesques trouaient la vertu de ces misérables, et leurs mains y farfouillaient, j'y pense aujourd'hui, tout un marécage de désirs humides. Robe grise aussi, d'un gris noir qui n'a plus l'habitude, avec à la croisée des boutonnières que je leur inventais, le petit coin jauni par une propension à la dernière goutte qui n'est jamais tout à fait la dernière. J'allais les connaître, ces pisseurs debout quand même, ces manieurs de la caroube, ces invertébrés de l'humanité, j'allais me mettre à leur merci pendant des milliers et des milliers de secondes, de ces secondes éternelles qui n'en finiraient pas de vider l'œuf sablier, comme pour les communications téléphoniques lointaines. J'avais 9 ans, et déjà Charlot Chaplin dans les lucarnes, j'avais donc le goût du cinématographe, j'étais averti. Eh ben non! Je n'avais rien vu. Asmodée se serait éborgné sur le champ. Un cancer, un égout, un rat crevé dans du pu depuis 2 jours, et qu'on vous servirait réchauffé au bain-marie après le jambon de Parme, tout, vous accepteriez tout, plutôt que de pressentir ce que je pressentais, l'univers de l'immonde, l'univers entier avec sa courbure, ses astres, son candidaton, ses bouddhas, ses flics, son effroi. J'étais coincé dans ça, et je sentirais ça pendant 8 ans. Quelle blanchisseuse voudra bien de mon âme au sortir de ces cabinets? Si l'on installait un laveur automatique de l'âme humaine dans les rues des hommes, il faudrait penser à la contagion et désinfecter tout le quartier alentour. L'âme humaine, quand ça pue, c'est pire que tout car on ne la sent pas, c'est comme les microbes, elle travaille en dessous. Je vous hais, homme noir de mes découvertes. Benoît Misère, numéro 113.
Il est significatif, même du point de vue de vocabulaire, d'insister sur le fait que on parle d'interne, d'internat, alors que on n'en parle pas jamais à ce propos-là d'internement et d'interné, ce qui revient au même. C'est bien la prison. Ça.
Oui, il y a tout un climat extrêmement louche, extrêmement vicieux, qui plane sur ce collège que vous décrivez, parmi tous les religieux qui ont tous des surnoms d'ailleurs extrêmement drôles et pittoresques, je n'en vois pas un qui mérite l'indulgence.
Non. Oui, peut-être celui qui faisait de la musique. Lui a eu un défaut, il n'était pas complexé, il buvait. Au fond, c'est pas mal. Les gens qui boivent, tant pis, ils n'emmerdent pas le monde. N'est-ce pas ? Ouais. C'était une tragédie permanente, mais dont je ne pouvais me confier à personne. Je parlais pas. Je pense qu'on est plus heureux en prison que dans un collège. C'est pire, le collège.
Et ma maman m'a amené à la gare de Monte-Carlo, donc en 1925, c'est pour ça que je vous ai parlé de 1925, c'est pour ça que je vous ai dit l'histoire de mon âge, que j'avais 9 ans. Comme ça, c'est beaucoup plus vite fait. Hein. Et alors, elle m'a amené à la gare de Monte-Carlo et elle m'a dit... oui, j'ai eu le plaisir de vous dire que quand j'étais petit, à l'âge de 14 ans déjà, ma mère me l'a dit quand j'avais 8-10 ans, elle me dit, tu sais, tu regardais toujours les femmes. Je dis, ben, je regarde tout, quoi. Ah, elle me dit, non, là, tu regardais les femmes comme ça, avec des yeux qui n'étaient pas les yeux d'un enfant. Moi, j'ai toujours regardé les femmes, toujours, encore, hein, bon. Et ce qui m'intéressait, ce que ma mère m'a dit, elle m'a dit, tu sais, tu regardais aussi les religieuses. Ah, j'ai dit, oui, maman. Et elle m'a dit, pourquoi? Eh, parce que, tu comprends, cette espèce de houppelande qui traînait par terre comme ça. Et alors, j'avais envie d'aller voir un peu comme ça. Hein. Elle m'a regardé avec les gros yeux. Et je dois dire que aujourd'hui encore, mais enfin, c'est difficile. Hein. Et oui. Et alors? Et alors? Je pense à la religieuse, mais ça, j'oublie tout alors. Quand on est arrivé à la gare, ma mère dit, voilà, monsieur. Non ! Alors, qu'est-ce que je vois là ? Un mec ? Parce que moi, dans la rue, je regardais les femmes et pas les hommes. Et là, j'ai vu un homme avec une robe qui avait dû être noire. Je sais pas comment elle était un peu... Il y avait tout dedans, quoi. Tout du jaune, du machin, violet, mais pas l'autre violet, hein. Et puis, avec un rabat qui avait dû être blanc aussi. Alors là, il n'y a pas de problème. Pour voir s'il était blanc, il fallait vraiment chercher, hein. Il fallait aller comme ça, moi je n'osais pas parce qu'il y avait toutes des dégueulasseries dessus, c'est une petite merde et tout ça. Et alors, j'ai regardé ce type, j'ai regardé ma mère, et je me suis dit, mais c'est un homme qui a une robe. Oh, comment ça se fait ça? Et ma mère lui dit, voilà, monsieur... Non, madame! Cher frère! Si t'as jamais vu le frère des écoles chrétiennes... Même dans un bocal, il faut y aller, il faut les voir. Hein. Ça vaut le coup, hein. Pour moi, hein. Ça vaut le coup. Et alors, ma mère me dit non, madame, cher frère. Voilà, cher frère, je vous apporte Léo Ferré. Non, madame. Ma mère me regarde, je la regarde, elle me regarde, elle me regarde, elle me regarde, elle me regarde. Léo 38. Et après, je me suis fait, parce que il y avait les autres, il y en a un qui s'appelait 17, l'autre qui s'appelait 22, Il y en a un qui s'appelait 177. Et puis, il y en a un qui est... Pourtant, il était con, hein. Qui avait poussé la prescience jusqu'à s'appeler 68. Ah! Et alors, là... Voilà. On était en prison. Les enfants en prison, ils savent pas qu'ils sont en prison. Les hommes qui sont dans les prisons des hommes, ils savent pourquoi, d'abord. La plupart du temps, puis ils peuvent, comme je dis... cracher mentalement à la gueule de ceux qui les ont mis, de ceux qui les maintiennent, hein, n'est-ce pas? Tandis qu'un enfant, il sait pas. Non pas parce qu'il a pas de salive, il en a, hein. Mais il y pense pas. Parce qu'il croit pas qu'il est en prison. Il souffre sans savoir que c'est une prison. Moi, il y avait des murs de 2,50 m ou 3 m, je me souviens pas, en pierre. Et j'ai pas le souvenir d'un copain qui était faire le mur, quoi. Une fois, j'ai essayé de faire le mur, moi, par le portail. Alors, ils m'ont pris tout de suite, quoi. Mais vous savez pourquoi? Les enfants, ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte. En tout cas, quand j'étais petit, moi. Quand j'étais petit. C'était pas drôle. Pas du tout. Les enfants, malgré un livre où j'avais lu, quand j'avais 12-13 ans, un livre où le titre disait que les enfants... des philosophes et des poètes. Les enfants, vous savez ce que c'est, les enfants? Le drame des enfants, c'est qu'ils sont des enfants.
Aux éditions Bernard Lafont a été publié il y a quelques semaines un excellent récit de Léo Ferré, Benoît Misère. C'est ce livre qui va fournir l'émission de ce soir, qui a été réalisé par Jean-Jacques Vierne. Je m'appelle Reine et toi, Misère Benoît, mon père s'appelle Pierre, ma mère Sophie et ma sœur Jeanne. Dans ce récit qui se déguise en roman, sans doute parce qu'on rend mieux compte de l'expérience la plus familière et la plus personnelle quand on est devenu un autre, Léo Ferré, en fait, raconte son enfance. Son enfance à Monaco, immédiatement après la Première Guerre mondiale, son enfance, sa famille... ses compagnons de jeu, puis le collège, où l'on apprend la société. Le collège, vicieux, mais politique. Ignorant, mais pédant. Perfide, mais aimable. Alain appelait le collège la ratoire. Léo Ferré, lui, appelle le collège la prison. Ceux qui ont été élevés en prison ou dans la ratoire, et qui ont résisté à ce régime, à l'hypocrisie du système, gardent dans leur vie quelque chose d'émancipé. Une espèce de folie de la liberté les fait se débattre dans le lasso où nous sommes tous plus ou moins coincés. Léo Ferré est de cette espèce intraitable. Moins révolté que sa poésie, son roman vibre de sensibilité où s'exprime le plus pitoyable, le plus tendre de l'humanité. Benoît Misère, c'est l'histoire des misères, comme disait Hugo. Ce qu'elles ont de clair, d'obscur, de fraternel, d'accablant, de sublime. Mais ce Benoît Misère, qui veut communiquer ce qu'il ressent, est aussi capable d'envol, à perte de vue. Par son lyrisme, Benoît Misère possède le monde. Il est capable d'égaler le monde, de le faire surgir comme il veut et quand il veut. Car ce misérable sait écrire. Léo Ferré a mis en préface à son livre... l'un des actes de foi les plus convaincants qui ait été écrit sur le pouvoir des mots, sur l'incantation. Et dans tout ce récit tourné vers l'enfance, où Léo Ferré nous dit à la fin qu'il veut redescendre de son âge petit à petit, redevenir vagissant, rentrer dans sa mère, en fait, il s'agit de descendre pour remonter, pour suivre la marche du temps, pour continuer et devenir plus exigeant dans l'art d'atteindre tout ce qui est près de soi et profondément vrai. Ce roman souvenir, truculent, pittoresque, parfois amusant, parfois poignant, nous promène dans le monde des ombres et des enfers pour qu'on apprenne d'abord à ne plus croire à rien qu'à ce qu'on aime et à ce qu'on sent. Vraiment, les dernières pages sont les plus émouvantes. Dans un jeune Polonais, Dobro, Benoît Misère trouve son double, un double qui l'assure, qui lui donne courage en lui-même, qui l'aide à entretenir ses convictions.
Souviens-toi des souliers usés des vendredis et le poisson qui se rendait sur la table à midi et qu'il marchait tout seul, qu'il n'était pas poli. Frais ou pas le maquereau, faut que ça fasse des chichis. Souviens-toi des jeudis et de la mère Larousse, le frangin à rabat comme un flic à tes trousses, et ta plume qui grattait sous l'œil de ce bandit qu'une certaine envie mettait à ta merci. L'enfance, c'est un chagrin cueilli de frais, c'est un jardin, c'est un bouquet, c'est des épines aussi. L'enfance, c'est le paradis dans du cambouis, c'est des caresses au fond de la nuit, c'est une leçon d'ennui. L'enfance, c'est des copains qu'on a perdus, c'est des petites mômes qu'on n'a pas eues, c'est une chanson toute nue. L'enfance, l'enfance, c'est un jouet qui s'est arrêté, c'est l'innocence rapiécée, c'est toujours ça de passé. L'enfance, souviens-toi des frangines qu'avait même pas 10 piges dans la nuit retrouvée. On jouait à se faire la pige, même qu'elles étaient girondes, avec leurs yeux barrés juste en dessous, comme une ombre, comme le phare du péché. Souviens-toi des silences au fond des corridors et ce halètement divin, je l'entends encore. Et puis la nuit fidèle à se rappeler ces trucs-là et cette foutue mémoire qui me tient par le bras. L'enfance, c'est un pays plein de chansons, c'est le remords de la raison, c'est la folie aussi. L'enfance, c'est l'enfer sous le tableau noir, c'est Tahiti dans un dortoir, c'est l'âme de la nuit. L'enfance, c'est un oiseau qu'on a manqué, c'est un chat qu'on a chahuté, et c'est la cruauté. L'enfance, l'enfance, c'est jour après jour quitter l'ombre, et vers la proie et vers le nombre, c'est apprendre à frapper. L'enfance, souviens-toi des bonbons et puis du Père Noël, de la toupie qui tournait, 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 qui tournait.
Écrire n'est rien. Oser le faire implique cette mémoire multipliée et 1000 fois anonyme. Cette voix du dedans qui est la voix de 1000 autres voix qui crient derrière les portes de l'absurde pour quelques-uns, de l'éternité pour tant d'autres. La véritable littérature est impersonnelle et consignée partout, hors les livres. Elle nous vient du silence. Je n'existe que pour mieux m'extasier devant tout ce que j'invente. Quand je vois un peuplier, c'est moi qui le fais, à l'instant même, et il meurt dès que je meurs à lui. Cette femme qui est montée tout à l'heure dans la chambre de son amant à Chicago n'y est montée que rétroactivement, à l'instant précis où je le veux, sous le ruban que bat mon clavier, maintenant qu'elle ouvre grand ses ciseaux pour tailler dans mon tissu de chair et d'ombre, et l'ambulance qui passe dans la rue au moment où elle crie n'y est pas passée et n'y passera pas. L'homme blessé ne mourra pas, d'ailleurs, il est indemne. La machine qui lui a volé sa main à l'usine n'est pas encore en marche. Quand je le voudrai, le courant lui donnera son sang à cette admirable machine qui m'obéit beaucoup mieux que je ne m'obéis. Le temps des hommes n'existe pas. Il n'y a de vivace que le temps de ma folie. J'ai été cheval avec une voix de mezzo-soprane et je n'aimais que le chant grégorien. J'ai été paquet de cigarettes dans un compartiment de non-fumeurs à mesurer mes chances. Être mégot, c'était là ma folie. Qu'il reste quelque chose de moi, pas seulement de la fumée, non, un cadavre étiqueté, reconnu. Je suis mégot pour l'éternité. J'ai été source, avec des idées champêtres et des goûts sédentaires, mais les hommes n'ont pas voulu de ma sagesse, ils m'ont engrossé et me voilà perdu dans l'Atlantique. Perdu, ridicule, mais vivante. Je m'appelle Source. J'ai été tramway et j'ai sombré dans la ferraille, moi qui n'avais de perche que pour l'attendre aux amoureux au terminus, quand on leur crie justement « Terminus !» J'ai été laine sur un mouton et fini mes jours en un matelas d'un admirable artiste qui fait l'amour 2, 3, 10 fois par jour, jamais avec la même femme, toujours avec moi. Au moment où les étoiles ne se comptent plus, tellement il y faudrait de mathématiciens avertis, quand les corps plient sous la rage et que la fille gueule dans la seule langue du monde possible, lorsque s'ouvrent béantes les seules portes de secours qui ne grincent jamais, alors je me repose dans ma petite laine. J'ai été. Je suis tout. Je suis toi, soldat musette. Je suis toi, le chien d'aveugle. Toi, le chien de riche. Je suis aveugle et riche et me crève ce qu'il me reste Dieu dans la bouche, dans le nez, dans les oreilles et dans les mains. Et je ne suis plus qu'un écrivain qui écrit.
La mère, fermant le livre du devoir, s'en allait satisfaite et très fière, sans voir dans les yeux bleus et sous le front plein d'éminence l'âme de son enfant livrée aux répugnances. Tout le jour, il suait d'obéissance, très intelligent, il pourtant d'éthique noire, quelques traits semblaient prouver en lui d'âcres hypocrisies. Dans l'ombre des couloirs aux teintures moisies, en passant il tirait la langue, les deux poings à l'aine, et dans ses yeux fermés voyait des points. Sur le soir, à la lampe, on le voyait là-haut, qui râlait sous la rampe, sous un golfe de jour pendant du toit. L'été surtout, vaincu, stupide, il était entêté à se renfermer dans la fraîcheur des latrines. Il pensait là, tranquille, et livrant ses narines. Avait des odeurs du jour, le jardinet derrière la maison en hiver, s'illunait gisant au pied d'un mur enterré dans la marne, et pour des visions écrasant son œil d'arne, il écoutait grouiller les galeux espaliers. Ses enfants seuls étaient ses familiers qui, chétifs, front nu, œil déteignant sur la joue, cachant de maigres doigts jaunes et noirs debout, sous des habits puant la foire, et tout vieillot conversait avec la douceur des idiots. Et si, l'ayant surpris à des pitiés immondes, sa mère s'effrayait, les tendresses profondes de l'enfant se jetaient sur cet étonnement, c'était bon, elle avait le bleu regard qui ment. À 7 ans, il faisait
faisait des romans sur la vie du grand désert, où lui la liberté ravit, forêt, soleil, rive, savane. Il cédait de journaux illustrés ou rouges, il regardait des espagnols rire et des italiennes. Quand venait l'œil brun folle en robe d'indienne, 8 ans, la fille des ouvriers d'à côté, la petite brutale, et qu'elle avait sauté dans un coin sur son dos en secouant ses tresses, et qu'il était sous elle, il lui mordait les fesses, car elle ne portait jamais de pantalon, et par elle meurtrie des poings et des talons, remportait les saveurs de sa peau dans sa chambre. Craignait les blafards dimanche de décembre, où, pommadé sur un guéridon d'acajou, il lisait une Bible à la tranche vers chou. Des rêves l'oppressaient chaque nuit dans l'alcôve. Il n'aimait pas Dieu, mais les hommes qu'au soir fauve, noirs en blouse, il voyait rentrer dans le faubourg, où les crieurs en 3 roulements de tambour font autour des édits rire et gronder les fous. Rêvait la prairie amoureuse, où des houles lumineuses, parfums simples, pubescence d'or, font leur remuement calme et prennent leur essor. Et comme il savourait surtout les sombres choses, quand dans la chambre nue aux persiennes closes, au thé bleu, âcrement prise d'humidité, il lisait son roman sans cesse médité. De lourds ciels au creux et de forêts noyées, de fleurs, de chair au bois sidéral déployé, vertige, écroulement des routes et pitié, tandis que se faisait la rumeur du quartier, en bas, seul et couché, sur des pièces de toile écrues, et pressentant violemment la voix.
Écrire le livre d'une enfance. D'ailleurs, l'enfance, l'artiste seul. Et l'artiste seul dans la vie, ça va, mais quand il est petit, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il ne sait pas qu'il est seul parce qu'il est artiste. Enfin, c'est ça le livre. Et j'ai écrit ça en 2-3 ans, comme ça, à temps perdu, parce que, évidemment, c'est pas mon métier que d'écrire des livres. Et puis, c'est resté comme ça, dans des tiroirs. Depuis cette année, un concours de circonstances a voulu que je le fasse éditer, et je l'ai terminé.
Vous venez de dire, ça n'est pas mon métier d'écrire des livres, mais c'est en tout cas votre talent de vous servir des mots, comme vous vous en servez si bien dans vos chansons, des mots de poète. Et il y a au début du livre une sorte de... je ne dirais pas de défense, mais de profession de foi, de l'homme qui écrit. Je dirais, moi, du poète qui écrit. Il y a plusieurs pages très belles sur l'imaginaire de l'écrivain, sur son identification au monde entier, à toutes sortes d'êtres et d'éléments même, puisque votre poète s'identifie, que sais-je, à des marins, et même un paquet de cigarettes, un mégot sur un coin de table. Ça, c'est très intéressant, tout de même, qu'il y ait ça au début de votre livre. C'est une défense, je crois, de la liberté de l'écrivain au milieu de son univers de mots, de son langage.
Oui, et je crois que Ça n'a pas été une pure invention littéraire, cette sorte d'introduction. C'est que ça me tient à cœur, parce que moi, quand j'étais malheureux, quand je suis malheureux encore, ça m'arrive souvent, parce que toujours cette solitude de l'artiste, eh bien, j'ai un besoin terrible de me transmettre dans les choses, par exemple. Vous me disiez tout à l'heure que je suis un paquet de cigarettes, un mégot. J'ai été ça aussi. Et plus loin, je parle de cette histoire des chevaux, que j'aime beaucoup. Et dans mon pays, il y avait des chevaux de fiacre. Et quand je les voyais, souvent, ma mère m'accompagnait au collège et je voulais être le cheval. Et j'ai dit à un moment, cheval, prends mon livre, va apprendre l'algèbre, moi je vais prendre ta place. À la voiture et puis je mangerai l'avoine comme ça avec le petit sac qui pend à mon cou, et c'est une chose que je désirais hautement, n'est-ce pas, et ça n'est pas une invention vraiment. Et j'ai voulu être un crépuscule un jour, je voulais être des choses, quoi, parce que c'était une mort imaginée, une mort instantanée, mais c'est une chose qui m'arrive souvent.
Drôles de types qui vivent de leurs plumes ou qui ne vivent pas, c'est selon la saison. Ce sont de drôles de types qui traversent la brume avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons. Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leur sous dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus, leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés, quand ils marchent dessus, ils se croient sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens parfois compagnons de misère et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays d'absurdité. Ce sont de drôles de types qui regardent les fleurs et qui voient dans leurs plis des sourires de femmes. Ce sont de drôles de types qui chantent le malheur sur les pianos du cœur et les violons de l'âme. Leurs bras tout déplumés se souviennent des ailes que la littérature accrochera plus tard à leur spectre gelé au-dessus des poubelles où remoueront leurs vers comme un effet de l'art. Marchent dans l'azur, la tête dans les villes, et savent s'arrêter pour bénir les chevaux. Ils marchent dans l'horreur, la tête dans des îles où n'abordent jamais les âmes des bourreaux. Ils ont des paradis que l'on dit d'artifice, et l'on met en prison leurs quatrains de 10 sous. Comme si l'on m'était offert un édifice sous prétexte que les bourgeois sont dans les goûts.
Et pour arriver à mon collège, il fallait, après la douane, prendre un tramway. Adorable créature de fer et de bruit. Oh, combien j'ai aimé, adoré, imité, emporté avec moi dans mes rêves tous ces trams qui chahutent encore de loin. Combien j'aimais leur musique, combien j'ai fait de voyages dans ces gros machins imaginaires, inventant des arrêts, des pannes, des clients, supputant des aiguillages avec les blocs au rouge et l'attente fébrile, les manettes à la main, le sifflet en mémoire et le prochain arrêt bien dans l'œil. Je faisais tout, le Wattman, le receveur, le client. Il pleuvait des fois, le tram était vide. Nous n'étions plus que nous deux, moi, et puis moi. Les fantômes ne sortaient pas sous la pluie, même en tram, c'était bien connu. Alors, on arrivait au terminus, je changeais de manette, je tournais la perche en visant bien le fil électrique, et je m'emportais avec lui, mon tram, dans la nuit éternelle que fut toute mon enfance. Les trams qui me fourgonnaient jusqu'à mon collège, je ne les ai jamais envisagés. Je leur crachais des autobus à la figure. Ils étaient le convoi de misère. Souvent, pendant ces années et la nuit, dans mon petit lit de fer, je les écoutais passer au loin ces sales tramways, et je pleurais, et je les aimais aussi peut-être, car ils étaient la seule musique de la vie, la terre qui m'arrivait. Un salut, vieux tram vert de ma désespérance. Salut, sale convoyeur d'un petit enfant poète qui vous inventait du charme dans la brume et à qui vous passiez les menottes. Salut, vous faites un tel bruit dans ma mémoire que mon chien vient de dresser l'oreille. Dormez dur dans vos linceuls de ferraille et merde à vos éclaboussures vertes sur mon costume marin ce soir d'automne de 1923 où vous avez cessé de rouler pour moi.
J'étais môme, à la radio on jouait please, puis notre vendeur, c'est bien d'accord. Quand j'étais môme, les filles avaient une fleur exquise qu'elles nous fanaient pour de baisers. Quand j'étais môme, Daniel Darieux, on ne fait pas mieux. Quand j'étais môme, on faisait marcher nos belles guiboles dans les dancing et dans le smoking. Papa, quand j'étais môme, la musique coulait comme du miel à Europe 1 sur les copains. Quand j'étais môme, les filles qui étaient encore pucelles, on les mettait dans un musée. C'était Johnny ou quoi ou qui. Quand j'étais môme, on faisait du rock et de la bricole un peu partout avec les sous de papa. Quand tu seras môme, sur des planète distinguée, on t'apprendra le temps d'aimer. Quand tu seras môme, les filles auront la voie lactée et des comètes dans le tablier. Quand tu seras môme, sur ton palier en guise d'idole, nébuleuse ou pételgeuse. Quand tu seras môme, on t'apprendra la bonne parole, la bonne recette pour jamais être papa. Il n'y aura plus de môme, jamais de môme, y'aura plus rien, pas même un chien, un pauvre chien. Y'aura que du vent et plus d'amants. Y'aura que la lune qui fera le tapin pour les savants.
Il était dans le port à Monaco. C'était un charbonnier, oui. Il amenait le charbon pour l'usine à gaz. Alors nous, on s'amusait. On se prenait pour le charbonnier, on l'attendait venir. On l'attendait. On allait de l'autre côté, là-bas, du côté du palais du prince, sur les remparts. On le voyait arriver, on savait quand il allait venir. On dit, Léo, le charbonnier, ah! On gueulait comme des ânes. On le voyait entrer dans le port. Il arrivait, il se mettait à quai, près de l'usine à gaz. Et à ce moment-là, on commençait. On était le charbonnier. Ah, tu comprends.
Il n'en restait plus qu'un, et c'était celui-là. Un port du Nord, ça plaît. Surtout quand on n'y est pas. Ça fait qu'on voudrait y être. Ça fait qu'on ne sait pas bien s'il faut se taper le poète ou se taper la putain. Rotterdam, où il n'y a pas que des putains, où il n'y a pas que des marins, où il y a des chiens perdus et des enfants des rues, où il n'y a pas que des marchands, où il n'y a pas que des chalands, où il y a des vieux chevaux qui brigent avec la mort, où il y a des flics chinois qui se prennent pour la reine, où il y a des filles en soie qui font couler leur gaine sur le bord du trottoir comme un chagrin de plus qui traînera ce soir tout le long de la rue. Si au moins ça pouvait ressembler à Rotterdam, où il y a des rats crevés comme il y en a à Paris, où il y a des chats croisés avec des vieilles souris, où il n'y a pas de l'import, où il y a bien loin du port des amants qui se font et puis qui se défont, où il n'y a pas que des banknotes au seuil des mini-jupes et des mecs qui s'occupent à placer leur camelote, où il y a des malheureux qui donneraient leur cul si en donnant son cul on était bien heureux. Si au moins ça pouvait ressembler à Rotterdam, où il y a des assassins planqués dans leur whisky et puis des insensés qui passeront pas la nuit, où il n'y a pas que du tabac au goût de caramel, où il y a de pauvres soldats qui se farciraient le carmel, où il y a un Christ debout derrière un bar de nuit qui cause avec le bout de la nuit, où il y a des exilés qui sortent leur exil dans le ciel barbelé d'une publicité con. Si au moins ça pouvait ressembler à Rotterdam, où je n'irai jamais car je vais au soleil, où tu n'iras jamais car partout c'est pareil. Je prends le train du sud, tu prends le train du sud, il prend le train du sud jusqu'au bout de la nuit. Si au moins ça pouvait ressembler à l'Italie.
Il y a heureusement, une ou deux fois, une sorte d'évasion et une très jolie page aussi qui est consacrée à un certain bateau, le bateau d'Arturo. Et là, à partir de ce bateau que j'imagine vous retrouviez au cours d'un congé ou d'une chose de ce genre, à partir de ce bateau, à nouveau, là, Benoît Misère s'évade vers la vraie vie, vers la poésie, vers l'unanimisme, au fond. On retrouve l'idée du début du roman d'identification à la nature.
Oui, parce qu'il y avait un bateau que nous voyons... enfin, c'était jamais le même, quoi. Il y avait dans ce port une usine à gaz. Donc, il y avait des bateaux qui partaient du